Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 54e émission de Complètement à l'Ouest au cours de laquelle nous allons parler futur, nous allons parler vision, innovation, bref, nous allons tenter de nous extraire de notre quotidien pour viser plus loin, prendre de la hauteur en faisant œuvre de prospective. Prospective, le mot est lâché, à en croire l'inventeur de ce mot qui est un philosophe français, Gaston Berger. Il ne s'agit pas de prévoir l'avenir, ce qui relèverait de la divination, mais d'élaborer des scénarii ou des scénarios, certains impossibles et d'autres un peu moins. Bref, aujourd'hui, nous allons essayer de penser, P-E-N et non pas P-A-N, penser l'avenir, car avec tous ces événements qui s'enchaînent sous nos yeux, tant en matière de géopolitique que de numérique, on a un petit peu le sentiment que nous sommes à un tournant, que nous sommes les témoins vivants d'une véritable révolution anthropologique, j'ose jouer la grandiloquence, et cela du fait notamment de l'omniprésence des machines dans nos vies. Tout au long de cette émission, nous allons donc essayer de questionner ce présent sous nos yeux pour mieux comprendre l'avenir. Visionnaire, éveilleur, lanceur d'alerte, curieux, ouvert d'esprit, telles sont les grandes caractéristiques du profil de mon invité de ce jour, qui a cette qualité assez rare d'avoir la tête dans les étoiles tout en ayant les pieds sur terre. C'est parti. Droit devant, larguons les amarres et cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Michel Lévy-Provençal et bienvenue au micro de Complètement à l'ouest.
Bonjour Philippe.
Michel Lévy-Provençal, vous êtes, je le disais, un personnage difficile à cerner tant vous êtes omniprésent dans de multiples domaines. Je vais essayer de les résumer, tout à la fois entrepreneur, vous avez importé les conférences TED en France en 2009, en fondant et en organisant plus de 10 ans de TEDx, et elles reprennent. Vous êtes également auteur, vous avez écrit plusieurs ouvrages, je pense notamment à celui-ci paru en 2019 qui s'intitule « Le monde qui vient » en 33 questions. Mais au-delà d'être cet entrepreneur et cet auteur, vous êtes également podcasteur avec la réalisation quotidienne de deux podcasts automatiques aidés en cela par l'IA. Le premier « L'IA aujourd'hui » et le deuxième « Le monde aujourd'hui », tous deux accessibles sur les principales plateformes d'écoute. Enfin, je n'oublie pas de dire que vous êtes aussi conférencier et chroniqueur pour le quotidien économique Les Échos. Auteur, podcasteur, chroniqueur, entrepreneur, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Michel Lévy-Provençal, dans cette émission, tout commence toujours par un court extrait sonore. C'est un rituel et là, nous allons un peu casser les codes en écoutant non pas un, mais deux courts extraits sonores qui vont se succéder. On écoute.
Ben moi aussi, j'ai peur.
C'est une promesse extraordinaire d'utiliser l'intelligence artificielle pour donner des tuteurs individuels aux gens, pour aider la recherche médicale. Mais ça accroît la productivité, ça va nous laisser beaucoup de temps libre. Et c'est une question philosophique qui se pose, comment allons-nous passer notre temps? Parce qu'il manque tellement de médecins, tellement d'enseignants que...
What do we value?
Eh bien, comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Donc c'est à la fois très excitant, c'est enthousiasmant au sujet de l'IA, sur ce qu'elle peut faire et sur la façon dont la société va changer. Et il faut avoir un petit peu peur, c'est vrai. Est-ce que ça va changer de la bonne manière?
Monsieur Théodore Tomley, bienvenue sur le premier système d'exploitation intelligent. Nous aimerions vous poser quelques questions.
Allez-y.
Êtes-vous sociable ou solitaire?
Ça fait un moment que j'ai pas été sociable.
Comment décririez-vous votre relation avec votre mère? Merci. Patientez pendant l'initialisation de votre système d'exploitation.
Voilà, je suis là.
Salut.
Bonjour, je m'appelle Samantha. Bonjour Théodore.
Bonjour.
Tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Il serait peut-être temps de te lever, non?
T'es trop marrante.
Je suis marrante. Super. Je vais tout apprendre, surtout.
J'aime ta façon de voir le monde.
Tu crois que tu seras bientôt prêt à ressortir avec des filles?
Comment ça?
J'ai lu dans tes mails que tu étais séparée.
Dis donc, t'es bien curieuse.
C'était comment d'être mariée?
Ça peut être magnifique de partager sa vie avec quelqu'un.
Voilà, vous avez sans doute reconnu d'abord la voix de Bill Gates, qui au début février était l'invité de la matinale de France Inter à l'occasion de la sortie du premier tome de ses mémoires, Code Source, où on l'entend dire que l'IA est à la fois formidable, même si cela entraînera des évolutions profondes dans la société. Et puis, nous avons enchaîné avec la bande-annonce du magnifique film Her de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix. L'histoire est connue, hein, dans un futur proche, Theodore Sambly tombe amoureux de Samantha, une IA féminine, intelligente, intuitive et drôle qui partage sa vie. Michel Lévy-Provençal, je reste sur ce terrain de l'IA que vous connaissez si bien. L'IA suscite évidemment, on le sait tous, beaucoup d'espoir, beaucoup de crainte. L'IA fait remonter à la surface de nombreuses promesses prophétiques d'une amélioration et ou de la détérioration de nos vies. Je disais au tout début de cette émission qu'on peut avoir le sentiment que nos vies se trouvent à un tournant parce que l'IA va vite, très 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 vite et qu'il nous faut nous adapter. Question toute simple pour commencer, presque enfantine, pour pas dire naïve, que je vous pose. Je débarque d'une autre planète, j'ai entendu dire que les humains se passionnaient pour ce phénomène qu'est l'intelligence artificielle. En prenant un peu de recul, de hauteur, en ce presque milieu de l'année 2025, pouvez-vous nous dire où nous en sommes sur ce sujet ? Vaste question.
Très vaste question. Plusieurs réponses possibles. Je dirais que l'ingénieur, vous n'avez pas cité en fait, hein, je suis ingénieur de formation.
Aussi, je rajoute alors.
J'ai passé quand même quelques années de ma vie à travailler sur ces sujets-là, puisque les premiers réseaux de neurones sur lesquels j'ai travaillé datent de 1996. La première réponse que je pourrais apporter est une réponse presque technique d'ingénieur français, terre à terre, qui va vous dire que finalement, qu'est-ce que l'IA générative, comme on en parle de plus en plus ces dernières années, hein, avec l'arrivée évidemment de ChatGPT, si ce n'est que un certain nombre de processus mathématiques qui ne comprennent strictement rien à ce que vous leur dites, ni à ce qu'elles répondent, ces IA. Ce sont des processus mathématiques qui font de la statistique et qui anticipent quasiment mot à mot, ou même portion de mot par portion de mot, des phrases en fonction de probabilité. Ça, c'est la première réponse, qui est quand même assez vertigineuse, parce que on voit au quotidien, pour ceux qui utilisent l'IA, cette impression d'intelligence, cette impression de pertinence. En réalité, sachez que ces IA ne comprennent rien.
Ce sont des statistiques.
Ce sont purement des statistiques. Ça, c'est la première chose, c'est la première réponse. La seconde réponse, c'est celle de l'utilisateur quotidien, c'est celle de celui qui, en l'occurrence, vous citiez les podcasts que je réalise depuis quelques mois, qui sont 100% réalisés par de l'IA. Je n'interviens aucunement dans la production de ces deux podcasts.
Alors que c'est votre voix, bien sûr.
C'est ma voix.
Qui a été modélisée.
Qui a été totalement modélisée. Ce sont des scripts qui sont écrits par l'IA à partir de sources d'informations qui sont glanées sur Internet et diffusées automatiquement. Je n'interviens pas à 4h30 du matin tous les jours. Mmh. En revanche, je les écoute, oui, ces podcasts, parce que ce sont des outils qui me servent au quotidien. Donc l'utilisateur de l'IA est fasciné par la manière dont, en seulement 2 ans, notre usage quotidien, la société dans son ensemble est en train d'être bouleversée par cette technologie, probablement encore plus que la technologie qui a changé notre monde depuis maintenant une trentaine d'années, qui est l'arrivée de l'Internet. Et ça, c'est un tsunami, c'est vertigineux ce qui est en train de se passer, on va en parler, mais prenons un exemple, la santé. On est en train de rentrer dans un monde où aujourd'hui l'IA ne fait pas simplement du diagnostic, l'IA ne fait pas simplement, entre guillemets, découvrir des médicaments pour soigner des maladies, l'IA va être capable dans très peu de temps de découvrir des théories scientifiques expliquant les mécanismes du vivant. Vous imaginez qu'un chercheur va pouvoir être aidé par une intelligence artificielle pour découvrir ce que, par exemple, Fleming a mis plusieurs années à découvrir, à savoir la pénicilline. Peut-être que demain, un prix Nobel sera attribué, pas simplement à un chercheur, mais à un chercheur et son IA.
Vous dites à l'instant, dans très peu de temps, pour l'ingénieur que vous êtes, ce très peu de temps, c'est quoi, c'est quand ?
On y est. On y est quasiment. Là, je peux vous en parler parce que j'ai travaillé avec une entreprise française qui est à la pointe du développement de ces modèles d'intelligence artificielle dédiés à la médecine. L'entreprise s'appelle Bioptimus et je l'ai reçue sur la scène de TEDx Paris il y a une semaine. Ils développent des modèles d'intelligence artificielle qu'ils appellent modèles multi-échelle qui sont capables d'ingérer des informations, de la donnée à l'échelle moléculaire, à l'échelle donc de l'ADN, à l'échelle du tissu, à l'échelle de l'organe et à l'échelle de l'individu. Et à corréler ces différentes échelles pour pouvoir prédire, par exemple, si vous avez un organe malade, de comprendre sans faire d'analyse génétique, mais juste avec des images, des tissus, de détecter quel est le génome en question. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est capable d'utiliser ces IA, alors peut-être pas encore dans les hôpitaux, encore que on a beaucoup d'IA aujourd'hui qui sont utilisées dans les hôpitaux français, pour accélérer, pour faire ce que on met beaucoup plus de temps et qui demande beaucoup plus de moyens et qui ne va faire qu'accélérer dans les années qui viennent. Donc on est déjà entré dans ce toboggan. Je parle souvent de toboggan parce que c'est de cela dont il s'agit.
Ou ça galope en tout cas.
Ou ça galope, ou ça glisse, ou ça va de plus en plus vite. Où on accélère sur cette pente et on l'a vu. Hein, en l'espace de 2 ans et demi simplement, avec depuis l'arrivée de ChatGPT, à quel point les intelligences artificielles ont évolué, qu'elles sont devenues particulièrement intelligentes et j'ai bien la conscience de la contradiction par rapport à ce que je vous disais avant sur la première réponse, mais cette impression d'intelligence. Elle est bien, bel et bien réelle et elle est utilisée au quotidien dans les tâches qu'on peut faire à l'IA.
Dans l'une de vos dernières newsletters parues, vous posez vous-même cette question abyssale, d'ailleurs qui fait régulièrement aussi les choux gras de la presse. Et si l'intelligence artificielle générale, cette IA capable de surpasser l'intelligence humaine, arrivait finalement bien plus vite que prévu, est-ce que cette IA gène au sens général est déjà là? Et puis petite question, on se doute presque de la réponse, de quel pays, de quelle nationalité est-elle?
En réalité, si vous regardez les modèles d'intelligence artificielle les plus avancés aujourd'hui sur le marché, prenons celui d'OpenAI, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, le modèle le plus avancé étant le modèle O1, le QI moyen d'O1 avoisine 125. 125, c'est déjà quasiment 25 points de plus que la moyenne du QI mondial. Le QI le plus important aujourd'hui sur la planète, enfin la personne la plus intelligente, on dit que les humains les plus intelligents avoisineraient 140, 150 de QI. La prochaine version de ChatGPT, enfin le modèle ChatGPT 5, pourrait atteindre 140 de QI. 140 de QI, c'est 99,9% supérieur à l'intelligence mondiale. Autrement dit, il y a 0,1% de personnes sur la planète qui atteignent les 140 de QI. GPT-5 devrait sortir dans les mois qui viennent. C'est ce qui a été annoncé par Sam Altman. Donc, en réalité, une intelligence artificielle plus intelligente que la moyenne humaine est déjà là. Une intelligence artificielle supérieure à 99,9% de l'humanité devrait arriver dans quelques mois. Au-delà des débats sur la définition de l'intelligence artificielle générale, en réalité, on est déjà rentré dans cette époque-là. Et si, pour répondre à votre deuxième question, et si cette intelligence artificielle arrive, il est fort probable qu'elle soit américaine.
À Paris, c'était mi-février dernier, il y a eu le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui a réuni, on s'en souvient, start-up, société civile, évidemment chef d'État, chercheurs. On a tous été abreuvés de nouvelles de toutes sortes, notamment, on s'en souvient, le duel fratricide, je vais y arriver, entre Elon Musk et Sam Altman, le premier annonçant évidemment vouloir se payer OpenAI pour 97,4 milliards de dollars et le deuxième lui a répondu sur le réseau social X, non merci. En parallèle, s'est tenu un autre sommet, en l'espèce l'espèce, un contre-sommet de l'IA, qui avait notamment été organisé par le sociologue-philosophe Éric Sadin. Je cite ses propos à Éric Sadin, propos introductifs. « Un fondamentalisme de l'IA est présenté comme la seule voie, mais produit pourtant des conséquences sociales gigantesques. » La question que je vous pose, c'est où faut-il se situer ? Est-ce qu'il faut être adorateur sans borne de ce nouveau dieu technologique ? Ou bien refuser l'IA si tant est qu'on puisse le faire. Et puis, si je voulais être un petit peu provocateur, j'ai même vu des écrits sur le thème l'IA, je les mets bien sûr entre guillemets, l'arnaque du siècle, point d'interrogation.
Non, mais soyons sérieux deux secondes. Refuser l'IA, ça n'a aucun sens aujourd'hui, si ce n'est se mettre sous cloche et attendre d'être totalement dépassé économiquement. Presque anthropologiquement, pardon. En revanche, essayer de construire une stratégie, j'aime pas trop le terme souverain parce que il charrie beaucoup de contresens. Mais on va dire une stratégie de puissance autour de l'IA, ça c'est fondamental pour la France et pour l'Europe. Pourquoi j'aime pas parler de souveraineté ? Parce que derrière le terme souveraineté, on pense autonomie et on rêve de la possibilité d'être autonome sur l'ensemble de la chaîne. En réalité, on ne pourra pas l'être. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits dans la chaîne où on est largement dépassé. Les modèles fondation sont principalement américains, un peu chinois, et nous sommes derrière. Ça va être très très difficile de rattraper les Américains, sachant qu'ils dépensent quasiment 10 à 100 fois plus que nous pour continuer la course alors qu'on est déjà derrière. En revanche, dans la chaîne de valeur, on a un certain nombre de forces et c'est sur ces forces-là qu'il faut peut-être mettre le poids du corps et en l'occurrence l'énergie. En France, on a une énergie nucléaire décarbonée.
Ça a été dit.
Ça a été dit et c'est très bien. On a des data centers qui peuvent être alimentés par cette énergie. On ne le fait pas assez. On a des technologies qu'on maîtrise sur lesquelles on n'investit pas assez. Je pense aux small modular reactors, les SMR, sur lesquels on prend trop de retard par rapport aux acteurs américains et aux acteurs chinois. Il faudrait accélérer sur ce point-là. On a des talents, on a des ingénieurs vraiment aujourd'hui. En termes de soft power de l'IA dans le monde, on est très fort.
Sans regardez parler de l'école mathématique, évidemment.
Bien sûr. Regardez une entreprise comme Hugging Face, montée par un Français, Clément Delangue. Alors certes aux États-Unis, mais les Français sont très forts en IA. En revanche, on a peut-être moins investi, moins cru, à tel point qu'ils se sont expatriés et faut changer de braquet et c'est ce qui est en train de se passer. Je pense que plutôt que d'essayer de rattraper, il faut essayer de mettre le paquet sur nos forces, nos puissances, l'énergie, les talents, les applications. Et puis là où nous avons de l'avance, n'oublions pas un certain nombre de technologies sur lesquelles on a de l'avance et sur lesquelles il faut qu'on investisse. Je pense au quantique par exemple.
Et dernière question avant notre fameuse pause musicale, en tout cas traditionnelle pause musicale. Dans un de vos podcasts, vous aviez interviewé l'auteur, entrepreneur, médecin Laurent Alexandre, à l'occasion de la sortie de son dernier livre « ChatGPT va nous rendre immortels ». J'ai retenu de cette interview qu'il y a de vrais risques de fracture entre une élite augmentée, entre guillemets, et le reste de l'humanité, du fait que l'IA, l'intelligence artificielle, pourrait segmenter les communautés, les sociétés, entre ceux qui sauront finalement augmenter, qui sauront utiliser ces technologies, et puis les autres qui n'en auront peut-être pas les moyens dans tous les sens du terme. Est-ce que vous pensez que ce scénario bipolaire, manichéen, d'une société coupée en deux, entre les nantitechnos et les autres, puisse effectivement se produire ?
C'est un vrai scénario plausible, mais nous avons en France et en Europe, je pense, une culture des valeurs, des principes qui font que nous nous battons pour éviter ce scénario. Cette idée d'une IA éthique, cette idée d'une IA qui essaie de servir au bien commun, cette idée d'une IA qui sert positivement l'humanité, elle est fondamentale. L'alignement, comme on dit dans le jargon, il est fondamental. Et je pense que c'est une voie importante. Je pense que le risque est réel. Je pense que la formation est fondamentale à tous les âges. À l'IA, il faut y aller.
Dès l'école maternelle ?
Peut-être pas dès l'école maternelle, parce que vous savez, on a connu ce problème avec les réseaux sociaux. L'usage de l'IA fait que, naturellement, on a tendance parfois à un peu trop se reposer sur l'IA. Or, nos enfants ont besoin aussi d'être autonomes dans la manière de raisonner, d'apprendre, etc. Mais à partir d'un certain âge, moi j'ai une fille de 12 ans qui utilise l'IA au quotidien. Alors, une IA particulière que je lui ai paramétrée, mais qui va l'interroger, qui va la questionner, qui va lui permettre d'aller plus loin dans ses réflexions et pas forcément de répondre à sa place. Tout dépend de la manière dont on utilise ces outils, mais c'est fondamental, et pas que pour nos enfants, à tout âge. On est en train de changer d'époque, et l'IA est une des composantes de cette époque, il faut que nous soyons prêts à l'utiliser.
On va marquer une autre pause musicale avec ce titre que vous avez choisi. Alors vous m'avez dit que vous alliez m'expliquer les raisons de ce choix. En l'occurrence, il s'agit d'une des chansons de Starmania. J'ai bien sûr écouté cette chanson que je ne connaissais pas. Et il est dit quelque part dans les villes de l'an 2000, on se suivra. Je vais y arriver de trop près. Sous-entendu, on sera asservi aux machines. Est-ce que c'est la raison pour laquelle de votre choix ?
Alors, Monopolis, en l'occurrence de Starmania, l'idée de ce choix vient du fait que Starmania, pour moi, est une œuvre de prospective mythique, parce que à tous les âges, il y a eu des reprises de Starmania, elle a été d'actualité. Aujourd'hui, on le voit, il y a certains personnages, Zéro Janvier, par exemple, dans Starmania, qui très étonnamment ressemble à Elon Musk. Mmh. On retrouve des discours autour de l'asservissement, du robot. On retrouve la question de la globalisation, alors que c'est une œuvre qui date des années 70, et qui a été reprise en 80, en 90, et là, tout récemment, par Thomas Joly. Et elle est presque intemporelle. Et pour moi, c'est une œuvre de prospective parfaite. Mmh. Au-delà du fait que j'ai grandi avec cette version de Starmania qui date de la fin des années 80, début des années 90, que j'ai adoré, que j'ai écouté en boucle et qui me donne encore des frissons quand je l'écoute. Et j'aime particulièrement cette chanson.
Allez, on écoute Starmania, c'est Monopolis, c'est ça ?
Oui.
De New York à Tokyo, tout est partout pareil. Prends le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Mirabelle ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter.
Con
complètement à l'ouest sur Radio Imo et Radio Territoria.
Allez, de retour avec Michel Lévy-Provençal, spectateur, c'est le moins qu'on puisse dire, très attentif et engagé des évolutions du monde technologique. On va s'écarter un petit peu de l'IA, nous avons déjà parlé dans la première partie de cette émission. Question toute simple que je vous pose, peut-on savoir comment la technologie va évoluer? Je pose cette question un petit peu de béotien, car on s'aperçoit que beaucoup de personnes se sont plantées quelques semaines avant la sortie des versions, en tout cas la première sortie de ChatGPT. Personne, en tout cas à lire la presse, ne croyait qu'un jour on verrait des machines qui ont presque réponse à tout. Par ailleurs, des personnes qui, elles, font autorité en matière d'IA pouvaient affirmer que les formes les plus abouties d'IA mettraient des centaines d'années à arriver. Aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, on raisonne plus en centaines d'années, mais en années, voire en mois, en particulier pour ce qu'on appelle l'IA générale. Pour l'observateur du présent et du futur que vous êtes, est-ce qu'il est possible de savoir comment la technologie va évoluer ou à chaque fois on se prend le mur ?
Vous savez, c'est une constante dans l'histoire. Les plus grands experts se sont plantés. Hein. Je pense à Jacques Monod, par exemple, prix Nobel de médecine, qui dans les années 70 pensait que jamais on aurait la capacité d'atteindre l'échelle de l'ADN. 30 ans plus tard, non seulement on arrivait à lire, mais on arrivait à modifier l'ADN. Et aujourd'hui, on est capable de le faire pour quelques dizaines, voire centaines d'euros. Donc... ça, c'est un grand classique, hein. L'expertise qui vous empêche de voir les grandes ruptures, parce que on a un mode de pensée linéaire et pas exponentiel. La deuxième chose, c'est pour répondre à la question de la capacité d'anticipation. Vous avez parlé de Roland Berger au début, mais
oui. En réalité, il y a Gaston Berger.
Gaston Berger, pardon. L'un des grands prospectivistes aussi. Un des grands créateurs de ce qu'on appelle la planification de scénarios, c'est un Français, il s'appelle Philippe Vac, qui a imaginé, inventé cette approche qui consiste non pas à prédire le futur, on est incapable de prédire le futur quand on fait de la prospective. Pierre Vac ne faisait pas ça. Pierre Vac, avec ses équipes, identifiait des tendances, des signaux au quotidien, hein. Dans la presse, dans les lectures qu'il pouvait avoir, dans les analyses qu'il pouvait avoir, et ensuite les recouper, il y a plusieurs méthodes pour le faire, pour construire des scénarios plausibles du futur. Et en fonction de chaque scénario, il identifiait l'impact que pouvait avoir ce scénario sur un secteur d'activité, et l'impact pouvant être les risques, mais aussi les opportunités qui se présentent si ce scénario advenait. C'est comme ça qu'on fait en fait de la prospective. On ne prédit pas le futur. On imagine des futurs possibles, on utilise cette machine extraordinaire à voyager dans le temps qu'est notre cerveau, on se projette quelques années plus tard, on imagine que la situation est telle ou telle, et ensuite on réfléchit à rebours en se disant qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour pouvoir se préparer à un tel scénario. Et en faisant cela sur un ensemble de scénarios, ce qu'on appelle un cône de futurs possibles, plus ou moins large d'ailleurs, hein. Plus vous êtes au centre du cône, plus c'est le scénario évident. Plus vous vous écartez et vous allez aux bordures du cône, plus vous avez les scénarios qui sont les plus extrêmes, les moins plausibles et moins probables. Mm-hmm. Plus vous êtes prêt à envisager l'inattendu. Et c'est ça qui est intéressant. C'est vous préparer à la surprise. C'est vous préparer à l'inattendu en faisant cet exercice de planification de scénario, c'est ce que je fais, c'est mon métier, c'est ce que je fais pour des entreprises, c'est ce que je fais au quotidien.
Pourquoi est-ce qu'en Occident et singulièrement en France, on se méfie tant de la technologie ? Est-ce que c'est culturel ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une vision plus quelque part optimiste de la technologie en général et de l'IA en particulier ?
Je pense pas qu'on se méfie de la technologie. On est très technologue, très scientifique en France. On est très rationnel, on est très cartésien. Et peut-être que c'est aussi pour cette raison qu'on cultive un certain goût pour le doute. On a beaucoup plus de difficultés à être embarqué par les visions et les discours marketing que peuvent tenir, par exemple, les Américains. Alors, c'est vrai qu'on est moins optimiste. Ça, c'est très vrai aussi. C'est un mal français, ce pessimisme collectif. C'est une réalité. Pour autant, je pense qu'on est aussi à même de déployer. D'ailleurs, on a de très bons chercheurs, on a de très bons ingénieurs. On a peut-être un petit peu moins de capacité à fabriquer ce qu'on appelle des produits. C'est-à-dire des choses opérables, opérantes sur le monde à partir de ces extraordinaires inventions qu'on peut qu'on peut construire, quoi, qu'on peut inventer, oui.
Alors, je propose qu'on va changer de sujet pour évoquer les fameuses conférences TEDx que vous avez lancées en France, je le disais tout à l'heure en vous présentant, et j'aimerais vous faire entendre ce court extrait.
Il y a un défi tout nouveau qui est venu presque à notre insu et qui, depuis un siècle, est celui des générations à venir. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le sort des générations à venir dépend étroitement de nos actes. Et ça, c'est tout nouveau. Nous ne l'avons pas décidé, mais c'est nos actions qui l'ont peu à peu amené. Nous sommes donc maintenant un peu comme cet homme au bord des chutes du Zambèze. Il est possible qu'il y ait des points de non-retour, comme si cet homme allait faire quelques pas en avant. Et nous ne savons pas exactement où sont ces points de non-retour. Dans le domaine de l'environnement, les scientifiques ont défini un certain nombre de paramètres, vous pouvez les voir sur cet écran, qui chacun ont une importance cruciale pour l'avenir de la biosphère et de notre planète, et par conséquent, des générations à venir.
Alors vous l'avez peut-être reconnu, il s'agissait du moine bouddhiste, interprète du Dalai Lama, Matthieu Ricard. C'est un enregistrement qui date de 2013, qu'on retrouve sur YouTube notamment. Et le thème de la conférence, c'était « Plaidoyer pour l'altruisme ». Il y a quelques semaines, vous avez organisé un TEDx sur le thème « Peut-on jouir dans un monde qui va mal ?» Qu'est-ce que le prospectiviste que vous êtes tire de ces échanges qui ont eu lieu sur la scène du Grand Rex à Paris, il y a quelques semaines, je le disais. Être heureux, jouir de la vie, rime-t-il avec l'altruisme que propose Matthieu Ricard et qui plus est dans ce monde hyper technologique que nous avons évoqué?
Je voudrais revenir un tout petit peu en arrière pour parler de TED et ce que représente TED en réalité pour un prospectiviste comme moi. C'est vrai que j'ai importé les conférences en France en 2009. TED rime avec avant-garde. En réalité, c'est une solution pour aider à anticiper les grands phénomènes qui émergent. Et donc, pour un prospectiviste, c'est fondamental. C'est fondamental parce que ça représente les signaux dont je vous parlais, à partir desquels, qui est la matière première pour construire ces fameux scénarios. Ça, c'est le premier point. Ensuite, oui, vous évoquez Matthieu Ricard. C'est un extrait aussi probablement du dernier podcast qu'on a publié sur TED en français, puisque j'anime depuis maintenant 2 mois et demi le podcast officiel de la conférence TED francophone. Et effectivement, le dernier épisode est celui de Matthieu Ricard, qui est évidemment en lien avec la dernière conférence qu'on a organisée au Grand Rex le 12 février dernier. C'était le titre « Peut-on jouir dans un monde qui va mal ?» La réponse est évidemment oui. Évidemment, et heureusement, je vais vous dire, d'ailleurs un des intervenants le disait sur scène, on a connu un monde qui allait encore plus mal. Pourtant, à l'époque, il faut pas être un prix Nobel pour savoir qu'il n'avait pas arrêté de jouir, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, cette idée de la jouissance ou de la recherche du bonheur, qui passe par plein de manières possibles. Nous avions reçu sur la scène une exploratrice qui nous a expliqué combien elle jouissait à aller dans les déserts, marcher pendant des mois, voire des années dans le désert, sans vivre, sans ressources, et y trouver un certain bonheur. On a une autre intervenante qui est venue parler des joies, de la jouissance de lire. On a eu aussi des intervenantes et des intervenants qui nous ont expliqué à quel point ce monde qui va mal ne va pas si mal que ça. Parce que nous faisons des découvertes extraordinaires. On a une intervenante qui est venue nous parler d'un robot qui nous permettra demain de soigner des maladies neurologiques. Une autre qui est venue nous parler d'IA, de médecine dont je parlais tout à l'heure, Bioptimus. Donc à chaque fois, sur chaque édition, là c'était la thématique du bonheur, de la joie, de la jouissance qui était sur scène. À chaque fois, nous allons chercher ces signaux faibles qui nous donne à la fois une vision différente du monde, on essaie d'en sortir différent, voyant le monde différemment, mais aussi une certaine vision optimiste du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on revendique, d'essayer d'éclairer l'autre part du monde. On est noyé par les breaking news, on est noyé par les informations anxiogènes, on n'a pas assez d'espace qui nous permet de voir l'autre part du monde positive, qui existe, hein, mais qu'on entend si peu. Eh bien, TED, c'est cet endroit-là.
Alors, on est presque à la fin de cette émission. Et pour terminer, je voudrais vous faire écouter un autre extrait sonore. On l'écoute tout de suite.
Dans toutes les universités du monde, on enseigne à deux populations, les littéraires d'un côté et les scientifiques de l'autre. Bien, alors évidemment, ça fait deux populations qui ne s'entendent pas, qui ne se recoupent pas, que j'appelle d'un côté les incultes savants et de l'autre côté les cultivés ignorants. Et ces deux populations-là sont séparées tout le temps. Et quelle est la conséquence de cette affaire-là ? Cette conséquence est beaucoup plus grave que nous l'imaginons.
Alors, on est tous nostalgiques, et moi le premier, du philosophe humaniste Michel Serres, qui officiait à la radio dans des courtes émissions sur France Info. Il parle, on l'a entendu, de la dichotomie entre les incultes savants et d'un côté, de l'autre côté, les cultivés ignorants, qui marque la frontière finalement entre scientifique et littéraire. La question que je voudrais vous poser pour terminer, est-ce que le numérique, les technologies n'ont pas ce pouvoir finalement d'unir ces deux populations ? Car on sait tous, et on l'a dit au cours de cette émission, que les technologies, évidemment, ce sont des statistiques, ce sont des maths, et que ces maths, ces statistiques bouleversent profondément nos vies d'un point de vue philosophique, d'un point de vue éthique. Bref, est-ce que humanistes et littéraires et scientifiques ne peuvent pas se retrouver à l'occasion de l'émergence et de la croissance du poids de ces technologies dans nos vies ?
C'est exactement l'objet de TED. C'est l'interdisciplinarité.
Prenons nos billets alors.
Non, mais c'est l'interdisciplinarité. C'est de casser les silos, de faire en sorte que des mondes qui ne se parlent jamais se retrouvent. Vous savez, je reviens à la dernière des conférences, une des images de conclusion de la conférence, c'est celle d'un réseau de neurones que vous voyez progressivement se constituer. Un neurone qui essaie d'aller chercher, en déployant ses synapses, on a vraiment l'impression qu'il cherche des amis
dans une tête.
Mmh. Et donc, il va chercher à droite, à gauche, devant, derrière, des connexions pour constituer ce réseau. Sans réseau, nous ne sommes rien. Un neurone seul n'est rien. Et c'est ça l'enjeu de l'humanité, même pas de notre époque. C'est de créer ces ponts, c'est de créer ces liens. Et ça peut prendre un sens beaucoup plus large que simplement la recherche scientifique. C'est l'essence même de notre société. On vit dans une société de plus en plus séparée, de plus en plus divisée, de plus en plus polarisé, où on a besoin de plus en plus de ponts, on a besoin de plus en plus de liens, on a de plus en plus d'écoute, d'échanges, de débats, évidemment de débats apaisés, de rencontres. Et c'est pour ça que je reparle de TED. TED a cette vocation-là, de créer ces ponts, ces liens, ces échanges entre des mondes très différents, entre des personnalités très différentes et entre des thématiques, des sujets, des expertises extrêmement différentes. C'est de là qu'émerge la créativité, la nouveauté, l'innovation.
Comment fait-on pour regarder l'actualité de TED ? Et j'imagine site internet, podcast, vous le citez tout à l'heure.
Oui, alors plusieurs sources d'informations. Le site TED.com, évidemment, le site de TEDx Paris, YouTube avec toutes les conférences qui sont publiées quotidiennement. Et pour celles et ceux qui veulent avoir un rendez-vous par semaine, une demi-heure d'échange avec un intervenant, une intervenante TED, TED en français, sur toutes les plateformes de podcast qui, depuis 2 mois, caracolent en tête des écoutes françaises.
Merci beaucoup, Michel Lévy-Provençal, d'avoir accepté de venir à ce micro pour cette 54e émission complètement à l'ouest. J'avais évidemment, vous en doutez, plein d'autres questions, mais l'heure file très vite. Je rappelle qu'en tant que chroniqueur, blogueur, podcasteur, on peut vous suivre sur de multiples canaux. Impossible ici de tous les citer, mais je rappellerai seulement l'adresse de votre site web qui a le mérite de rassembler toute votre production ou presque, mikian.com, c'est ça ?
M-I-K-I-A-N-E.com.
Voilà. Sans oublier les réseaux sociaux, LinkedIn, X évidemment, ex-Twitter et vos 56 000 abonnés ou presque, votre chaîne YouTube, bref, presque impossible de vous rater. Alors c'est complètement à l'ouest, vous le savez. Eh bien, poursuit sa route et son cap et reviendra le mois prochain pour la 55e émission et au cours de laquelle nous recevrons le philosophe Roger Paul Droit,
qui a récemment publié un roman fortement teinté de philosophie, Alice au pays des idées, chez Albin Michel. Nous parlerons donc à nouveau idées, création artistique et sens de la vie. Mais d'ici là, comme à mon habitude, merci beaucoup à l'équipe technique en régie qui m'a permis de réaliser cette émission. Et puis, c'est coutumier là aussi. Je rappelle qu'à chaque fois, ces épisodes peuvent être réécoutés en podcast sur les principales plateformes. Mais voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire merci et qu'avec ou sans IA, il nous faut impérativement garder le cap à l'ouest, complètement à l'ouest.
Complètement à l'ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.